Vamos.
C'est quand
ça,
le 27?
Ah,
ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Le 27, je pense que c'est pas demain, ça fait demain. Voilà. On partira Medicare, quoi. En auto. Voilà. Je suis sur le message déjà. Osée, chapitre 14. Chers amis, bonjour. Israël, revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités, reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. Voilà donc, chers amis, l'appel que Dieu fait à Israël. Et je pense que Israël est en train d'avancer vers le Seigneur Jésus, à grands pas. Que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord prier, puis on va passer au message proprement dit. Bonjour, Monsieur Tate, Bobby Tate. C'est un drôle de nom, cher Steven. Voilà. Bonjour, Betty. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors, je vais prendre en route le message tout de suite que j'ai donné hier au culte. C'est pas par paresse, c'est parce que tout simplement aujourd'hui j'avais prévu de faire un coffrage, un ferraillage et de couler une dalle de béton de 20 cm d'épais. Et les dames ukrainiennes et ma femme, Marie-Hélène, elles m'ont bien aidé. Tout seul, c'est impossible désormais. Voilà, et donc cette dalle ira au mois de septembre au fond d'un trou dans le pré du voisin sur lequel on posera des anneaux troués, des anneaux, et puis ensuite on mettra du gravier alentour et on captera une source. Un voisin nous donne sa source. Et au-dessus, il faut remettre une deuxième dalle, plus petite, un bouchon si vous voulez, et puis on remet la terre, on bouche tout. De manière à ce que tout soit solide et que quand les tracteurs, les paysans passent dessus, ils ne s'enfoncent pas. Mais l'eau sera captée et descendra dans nos jardins que nous avons créés derrière la maison pour le bien de tous. Pas seulement pour nous, on a 3 dans la maison, 4. C'est pour le bien de tous, nos jardins. Donc cette source est un cadeau de Dieu et il fallait faire une dalle de 2 mètres carrés au moins, très solide, en dessous, pour poser les anneaux. Et puis, il faut faire une dalle d'un mètre carré et demi au-dessus, qui n'est pas encore faite, qui sera faite sans doute jeudi ou demain après-midi. Voilà, aujourd'hui, que le Seigneur vous garde, nous allons aller dans la parole. Matthieu 28, verset 5. Et vous savez, c'est quand même sympa de travailler avec Marie-Hélène et deux dames ukrainiennes. Super énergique, super sympa. Elles sont gentilles, elles sont reconnaissantes et elles vont repartir. Il y a juste une dame qui va rester dimanche, celle qui a 52 ans, qui a des problèmes un petit peu cardiaques, qui va rester. La mamie de tous, elle va rester. Son mari est là-bas. Il a 57 ans, il ne peut pas encore venir, il faut 3 ans. Mais elle, si elle retourne, sa maison elle est complètement démolie, elle est rasée et elle devrait loger dans une voiture. Ce n'est pas des conditions pour une dame qui a des problèmes de tension, des problèmes de respiration, etc. Donc elle restera chez nous, elle fera partie de notre famille. Et bien sûr, quelques jours après, il arrive une autre famille, un couple qui vient de la mer d'Azov avec leur petite fille. La mer d'Azov, ils avaient deux hôtels, ils étaient prospères, ils ont tout perdu. Ils commencent à zéro ici en Belgique. Vous voyez, nous sommes heureux de vivre ensemble, fraternellement, avec les hommes et les femmes de la terre, que Dieu a mis sur la terre. Nous sommes les frères et les sœurs de tous ceux qui veulent bien l'être, au nom de Jésus. Ils ne sont pas forcément croyants, mais nous sommes des frères et des sœurs. Matthieu 28, verset 5. Vous savez, dans ce texte, c'est juste le lendemain, le jour de la résurrection. Marie de Magdala et une autre Marie allèrent voir le sépulcre où Jésus avait été enfermé. Et il y eut un grand tremblement de terre. J'ai vu la trace du tremblement de terre, la montagne est fendue et même le tombeau est fendu au gardien de tombe. Et cet ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Donc il y avait des gardes là. Et ils sont quasiment dans le coma ou, je ne sais pas, évanouis, tellement ils ont peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, elles ne tombent pas dans les pommes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Cette parole m'a beaucoup frappé dans la semaine passée, pour vous ne craignez pas. Mais c'est ajouté, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et je pense, chers amis, que si vous cherchez Jésus crucifié dans votre vie, que vous avez, ça veut dire que vous avez la foi, vous mettez votre confiance en lui, dans ce qu'il a fait pour vous au Golgotha et dans sa résurrection, vous n'avez rien à craindre. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Elles avaient cette foi immense que Jésus était leur Messie. Elles venaient de le perdre. Elles ne savaient pas encore qu'il était ressuscité, c'est l'ange qui leur annonce. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors, au chapitre 27, verset 55, il y avait plusieurs femmes, Matthieu 27, verset 55, il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin au moment où on a tué, assassiné Jésus, et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala. Magdala, c'est un village au bord de la mer de Génézareth, de Capernaum, tout près de Tibériade, si vous voulez. Magdala, ça veut dire la haute tour. Et Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, il y avait trois femmes. Et ces trois femmes ont assisté de loin à l'agonie de Jésus, à son sacrifice et à ses paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bien sûr, un peu après, au tombeau, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et de Joseph, nous savons donc que c'est quelle est cette seconde Marie. Très important de savoir, d'identifier. Sachez bien que quand ces personnes vont aller dire aux apôtres que Jésus est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, ils vont dire racontard des bonnes femmes. Et évidemment, il faut une grande honnêteté pour oser dire cela. Si c'était une secte des orgueilleux qui avaient écrit l'évangile, ils n'auraient pas écrit ça. Et ils ont été lamentables, et ils l'ont dit. Nous avons été lamentables, et ces femmes étaient courageuses. Ils en ont pris pour leur grade, mais ils ont accepté. C'était le bon chemin pour devenir de bons apôtres. Au chapitre 28, versets 18 à 20, voici ce que Jésus dit à tous ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tout pouvoir est dans les mains de Jésus. Que craignez-vous, les amis? Oui, si vous êtes incrédule, vous aurez toujours des craintes. Dans le premier cas de satanisme très puissant que j'ai rencontré, j'ai pris ce verset et tout s'est arrêté. J'ai confessé la Seigneurie de Jésus et son pouvoir. J'ai pris ces paroles-là. Et je peux vous dire que Satan n'a pas d'autorité contre Jésus. Alors, ne lui donnez pas la main en ayant peur, en étant incrédule. Dans les périodes qui vont avancer, la télévision, si vous la regardez un peu de trop, vous aurez des craintes. Tout est fait pour que vous ayez des craintes. Regardez Jésus, chers amis. Alors, est-ce que, autre part, dans l'Évangile, on n'aurait pas entendu, on n'aurait pas vu, on n'aurait pas perçu cette parole « ne craignez pas » Eh bien, dans Luc, chapitre 1, verset 30. Luc, chapitre 1, verset 30. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager la parole de Dieu. Voici ce que l'ange Gabriel est venu tout près d'une fiancée, une jeune vierge, qui s'appelle Marie, qui est fiancée à Joseph. C'est tout à partir du verset 26, Luc 1, 26, tout le récit. Cet ange vient tout près, mais elle a peur, elle est effrayée. Elle est effrayée. Et qu'est-ce que vous voulez que... C'est normal. Un coup pareil, vous auriez aussi des craintes. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce, c'est-à-dire tu es dans la faveur de Dieu. Et c'était la même chose pour Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Joseph. Clairement, Dieu veut donner la paix à ceux qui l'aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 24. Tout concourt au bien. Alors, l'ange dit, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Je sais. Dans Matthieu 24, verset 46, retournons à Matthieu. Matthieu 24, verset 46. Je vais commencer au verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, etc., eh bien, il ira là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Clairement, nous voyons que la personne qui donne la nourriture aux autres, c'est-à-dire la parole de Dieu, le bon témoignage de Jésus, n'a rien à craindre. C'est une personne qui est bénie. C'est une personne qui aura, lors du retour de Jésus, de l'établissement de son règne, un rôle dans le service de la parole derrière Christ et derrière Israël. Lisez Apocalypse chapitre 7, vous verrez les 144 000 suivis de personnes, de disciples de toutes les nations. Donc, l'ange, quand il dit aux deux maris, « Je sais », l'ange a de l'intelligence, l'ange a du discernement, l'ange est une personnalité, il a de l'amour. Il est au service de ces deux femmes, Prenons Hébreux chapitre 1 verset 14. Hébreux chapitre 1 verset 14. En parlant des anges, voici ce que Apollos, qui a écrit cette épître, dit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, donc un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont donc des esprits, ils n'ont pas de corps, ou s'ils prennent pour un certain temps une apparence physique, c'est provisoire. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc c'est intentionnel. Il y a donc une contribution à l'œuvre du salut par les serviteurs qu'on appelle les anges. Prenons le chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Si la parole annoncée par des anges, pensez à Joseph, au berger, pour Noël, pensez à Marie, pensez à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et aussi à Moïse, sur Mont Sinaï, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Les péchés ont reçu une rétribution, c'est-à-dire Christ a pris sur lui notre péché et a payé notre dette. Si la rétribution est faite, il y a un grand salut. Comment pouvons-nous mettre de côté ce grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant ce grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu appuie le témoignage des anges et le témoignage des apôtres et des disciples par des signes, par des miracles ou par des manifestations du Saint-Esprit. Tout cela peut encore se faire aujourd'hui. Quoique, les 12 apôtres ne sont plus là. Ils avaient des dons spéciaux propres au corps apostolique qui ne sont plus là. Mais on peut tout de même parfois remarquer que Dieu fait des signes puissants pour engendrer en nous la foi. Alors, regardons Luc chapitre 2, verset 8. Luc 2, verset 8. À 15. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc les veilles de la nuit, la nuit commence à 6 heures, première veille 9 heures, deuxième minuit, troisième 3 heures du matin, et un quatrième c'est 6 heures du matin, on se lève. D'ailleurs les brebis, dès qu'il y a de la lumière, elles louchent, elles gigotent, hein. Donc, pratiquement à chaque tranche de 3 heures, des bergers différents font la garde pour que les brebis ne soient pas attaquées par des loups, des prédateurs. Le chacal est un animal, un chien, une espèce de chien sauvage dangereux. Quand j'étais en Israël, il y en avait. Il y en avait à Bet-Shemesh, dans la vallée de Bet-Shemesh, il y en avait. De ma fenêtre, heureusement qu'il y avait 2-3 mètres de haut, je pense qu'ils seraient bien rentrés dans la chambre, ces gaillards-là. Ils sont culottés. Alors, il y a clairement des bergers qui passent la nuit à garder les troupeaux, à tour de rôle. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, comme lors au tombeau, hein, avec les deux maris. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. De nouveau, vous voyez, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Tout le peuple d'Israël est le sujet d'une annonce. Et cette annonce procure la joie. Le salut est source de joie. Lorsque quelqu'un est réellement sauvé, on voit toujours une joie dans son regard, même s'il est éprouvé, même s'il a des épreuves. Il y a quelque chose de plus fort, qui ne se limite pas à la contingence, aux difficultés temporelles du monde. C'est une joie intérieure, une joie d'être avec le Seigneur. Et c'est une lumière au fond de nos cœurs, de nos âmes, qui est déposée par le Saint-Esprit. Quand on aime Christ et sa parole. Donc, Luc, chapitre 2, verset 10, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est quand même incroyable que la joie du monde et la joie d'Israël dépendent d'un petit bébé dans une crèche, dans un endroit où les brebis accouchent, les petits agneaux. Mais aujourd'hui, combien de femmes mettent un enfant au monde dans des conditions pareilles? Beaucoup. Beaucoup. Nous sommes habitués en Occident au grand luxe des hôpitaux. Moi, je suis encore né dans la maison. Dans une maison où il n'y avait rien de spécial pour accoucher. Et ma mère et moi, on a manqué de mourir. C'était dans le plan de Dieu qu'on reste vivant. Alors, au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, Messias, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? Une multitude d'armées célestes, multitude d'anges. Donc Jésus est entouré d'une multitude d'anges, comme quand il reviendra et qu'il va trier les brebis et les boucs. Le blé est livré. Les anges sont au service de Christ. Et les anges sont au service du salut. Et ils sont donc proches des chrétiens. Combien de fois, quand on est au service du Seigneur, on ne risque pas sa vie. S'il n'y avait pas eu un ange, des anges, on ne serait plus là. Et c'est là, en cela, qu'il faut rendre gloire à Dieu. Notre condition humaine, lorsqu'on sert Jésus, dépend vraiment de la main divine. Nous ne sommes pas assez intelligents pour résister à Satan. Nous ne sommes pas assez forts pour résister aux péchés des autres ou aux nôtres. Il faut l'intervention divine, la protection divine. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » J'ai reçu ton pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que les anges viennent auprès de nous, pour nous aider et nous aimer. Mais nous ne devons pas prier les anges. Verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et donc, les anges ont donné un message très puissant. Les anges ont un divin ministère. Ils sont purs. Ce sont des êtres purs, ceux qui sont fidèles à Dieu. Il y a les autres qui sont fidèles à Satan. Matthieu 22, 30. Quand je pense aux frères et aux sœurs, dans beaucoup de pays musulmans qui ont la foi, qui vivent dans des conditions si difficiles, et Dieu les garde, Dieu les protège. Je pense qu'il y a des anges. Je pense qu'il y a des anges autour d'eux. Chers amis, il faut prier pour les frères et les sœurs, les chrétiens dans le monde. Il faut prier que Dieu les protège puissamment par ses anges. Et par le sang de Christ. Nous sommes en Occident trop nombrilistes, trop tournés sur nous-mêmes et nos petits problèmes. Nous avons plus de temps qu'on ne pense pour prier, intercéder pour nos frères qui vivent en difficulté dans le monde. Le Seigneur Jésus est bientôt là. Pensons que nous avons un grand devoir de veiller et de prier, de persévérer dans la prière pour tout le corps de Christ. Alors, Matthieu 22, verset 30. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Chers amis, la sexualité qui pose tellement de problèmes dans ce monde, qui est tellement déviée, surtout ici en Occident, mais partout, qui est un objet incroyable de trafic, de mensonges, de duperies, de domination, d'exploitation, le sexe, il n'y en a plus dans le royaume de Dieu. Il n'y en a plus. Regardez Jésus, son témoignage est flagrant. Il n'a pas été branché sur ce domaine. Parce qu'il est la plénitude. Et lorsque nous aurons la plénitude, nous n'aurons plus besoin de l'exercice de l'affection et de la sexualité entre sexes différents. Et pensez bien, j'ai logé des musulmans chez moi. Pensez bien qu'eux, ils ont une autre conception du paradis, où ils peuvent mériter des vierges. Je ne suis pas d'accord avec ce paradis. Il ressemble très fort à ce qu'il y a sur la terre, où les femmes sont utilisées par les hommes. Je l'ai dit clairement à tous ceux qui ont logé chez nous, je ne partage pas votre conception du paradis. Il me semble que c'est encore pire que sur la terre, et ce qui se passe sur la terre. Et notre Dieu, en Jésus-Christ, ne veut pas ça. L'ange est donc quelqu'un de pur, il est quelqu'un de puissant, et il est un témoignage de la fidélité et de la sainteté pour nous, puisque nous deviendrons semblables à lui. L'ange, s'il a annoncé des choses dans l'Ancien Testament, s'il a révélé des choses, on le trouve aussi dans Job, au chapitre 19, au chapitre 33. Mais l'ange offre une protection. Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, donc les croyants. Et tous les petits, ce sont les croyants méprisés, bafoués, humiliés, les esclaves de la terre. Souvent, beaucoup de vrais chrétiens sont des esclaves de la terre actuellement. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, l'ange est auprès du croyant, humilié, abaissé, il est auprès de la personne meurtrie, de la personne qui souffre, et il est auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède. Il apporte des supplications pour protéger cette personne. La personne, le chrétien, qui vit dans des conditions humbles et modestes, petites, souffrant, de souffrance, dans les épreuves, est au bénéfice de l'appui des anges auprès de notre Dieu, notre Père des cieux. Et c'est Dieu le Père qui l'a voulu comme ça. Pensons aussi à un autre rôle des anges dans Matthieu 13, verset 41. Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 13, 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers amis, Cette fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents, moi, quand j'avais la fièvre typhoïde, à 4 ans et demi, il n'y avait pas d'antibiotiques, je n'étais pas à l'hôpital, je l'ai vu. C'est quelque chose qui a été déterminant dans ma vie. Je savais que si je n'étais pas avec Dieu, j'allais là. Donc, j'ai décidé, dans mon petit cœur d'enfant, à 4 ans et demi, de me tourner vers Dieu. Bien que personne ne me parlait de Dieu. La première chose que j'ai pensée, si quelqu'un avait la foi, était tout près de moi, qui priait pour moi, je guérirais. Personne n'est venu. Solitude, solitude. Et ça existe pour beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Deuxième chose, 2 heures après, 2 jours après, je ne sais pas. 4 jours après, une semaine, je dis, si je guéris, je cherche Dieu toute ma vie, même si tout le monde est contre, même si personne n'est d'accord. Et le lendemain, je courais, comme un lièvre, un lapin. Je courais avec des autres enfants. Mais d'autres enfants étaient morts. Chers amis, cet engagement dans mon cœur, je l'ai pris. Mais durant des jours et des jours, j'ai vu le feu, les flammes. Et lorsque mon père, 70 ans plus tard, au même endroit, dans la même pièce, dans un grand lit bien sûr, pas un petit lit d'enfant, au même endroit, quand j'arrive tout près de lui, je lui dis, papa, je suis là. Il allait mourir, il le savait bien. Il ouvre les yeux, il regarde le plafond, il était terrorisé. Et je lui demandais, papa, tu vois l'enfer? Il me répond, oui. Ce que j'avais vu à 4 ans, lui, il le voyait à 77 ans, 77 ans. Alors, j'ai couru vers ma Bible et j'ai lu le psaume 116 avec lui. Et alors, il a accepté de se repentir devant Dieu. Car l'enfer n'est pas intéressant du tout, chers amis. Mais pas du tout. Il faut être inconscient pour ne pas choisir Jésus-Christ. Parce que ce qui attend celui qui ne l'a pas choisi n'est pas rose du tout. Je peux en témoigner. Donc, ici, clairement, l'exécution de la justice de Dieu, Matthieu 13, versets 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, donc les menteurs, tous ceux qui ne sont pas réellement consacrés à lui, qui n'ont pas une relation de foi et de vérité avec lui. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les anges ont un rôle de justicier, de police dans le règne de Christ. Oui, un rôle de police, de justice. Maintenant, voyons Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25. Et je voudrais vous dire que la véritable autorité, pas celle qu'on voit sur la terre, dont les hommes abusent parfois, ou souvent. La véritable autorité est à Dieu. La véritable autorité est à ses anges, au service de Dieu. N'oubliez jamais. Beaucoup se méprennent sur et ils se moquent de Dieu. Mais c'est redoutable. Leur avenir est redoutable, les amis. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous voyons bien que Dieu veut introduire les élus dans son royaume et leur donner une place éminente. Et les anges sont là, dans la gloire, autour du trône de gloire, autour de Jésus. Mais ils étaient là aussi pour se manifester aux bergers quand Jésus est venu sur terre, dans la crèche, emmailloté. Un petit bonhomme dont personne n'aurait considéré la vraie valeur. Les anges ont désigné la vraie valeur de ce petit monsieur qui venait de naître, Jésus de Nazareth, né à Bethléem, le Fils de Dieu. Les anges ont manifesté la véritable nature de Jésus. Ils l'ont désigné comme le Messie. Et donc, lorsque Jésus revient dans sa gloire, les anges désignent aussi Jésus, non plus comme le Sauveur, mais comme le juge des nations et des hommes. Ils sont au service de sa justice. Et ils sont là pour le glorifier, pour lui démontrer sa gloire et sa puissance. Dans Matthieu 28, 2 à 3. Matthieu 28, 2 à 3. Quand, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, donc la mère de Jacques et Joseph, José, l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu la rigole, supposons une rigole de 30 cm de profond, de 25 à 30 de large, avec une grosse pierre dedans, il faut 3-4 hommes costauds pour la rouler. L'ange la roule tout seul. En plus, il la couche et il s'assied dessus. Il est donc puissant, l'ange. Il est puissant. En cela, il accomplit le psaume 91, 91. Il est puissant. Prenons le psaume 91, 91, et regardons ce qui était promis. Il ordonnera à le psaume 91, verset 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces auteurs sont prisonniers du tombeau, du rocher dans lequel il était enterré. Que j'ai tes voies. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Quand l'ange s'assied sur la pierre, c'est clairement pour dire que Satan a échoué. C'est comme s'il était assis sur Satan. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, brisé par Jésus. Dans sa résurrection, Jésus a démontré l'impuissance de Satan et la nullité de la mort. La nullité du règne de Satan. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voici donc ce que Dieu a décrété. Jésus a la victoire. C'est l'accomplissement de Osée 13. Ô mort, où est ta victoire? La mort était engloutie dans la victoire de Christ. Dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, en reprenant Osée chapitre 13. Il est clair, chers amis, que quand l'ange a couché la pierre et s'assied dessus, c'est la démonstration de l'échec de Satan. Il faut attacher une importance à tous les détails, chers amis. Et il faut montrer que l'ange est quelqu'un qui connaît la victoire de Christ. Il connaît la force de Christ et il manifeste la force de Christ en ayant couché la pierre, en s'asseyant dessus. C'est fini, cette pierre ne servira plus à enfermer Jésus de Nazareth, le Messie. C'est fini pour la mort de la croix. C'est maintenant la gloire pour Christ. Donc la force de l'ange n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Un ange a une grande force spirituelle. Puissions-nous avoir aussi une grande force spirituelle, les amis. Plus nous prions, plus nous intercédons, plus nous adorons Dieu, et quand nous jeûnons, la force de Christ rentre de plus en plus en nous pour son service et pour l'échec de Satan autour de nous et dans nos vies. Nous ne pouvons rien faire par nos forces humaines. La chair ne sert à rien. Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit Saint qui vivifie. Prenons Jean chapitre 18, verset 36. Jean chapitre 18, verset 36. Voici ce que Jésus répond à Pilate. Pilate était un homme influent et très puissant, qui était au service d'un empire très puissant et féroce. Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux responsables juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pas encore d'ici-bas. Et clairement, mes serviteurs, ce sont les anges. Dans un autre texte, il est clair que Jésus dit « Dieu m'enverrait plusieurs légions d'anges. » Mes chers amis, le royaume de Dieu se viendra sur terre dans la puissance de Christ et des anges. C'est fini avec les fausses puissances de ce monde. Vous savez ce que Voltaire a dit de la politique humaine? Voltaire a dit ceci de la part de la politique. Ce sont des hommes sans principe, sans valeur, qui conduisent d'autres hommes sans mémoire. Sans mémoire, c'est-à-dire qui se laissent mener par le bout du nez, qui n'analysent rien, qui oublient l'histoire, qui ne connaissent pas les événements, qui ne les méditent pas, qui ne les réfléchissent pas, qui vivent au jour le jour. La politique, ce sont des gens sans valeur, sans principe, qui conduisent des gens sans mémoire. Eh bien, pour Jésus et ses anges, c'est tout le contraire. L'immense valeur de Christ et de ses anges et la mémoire de la volonté divine, l'accomplissement de la victoire, pas seulement le passage en mer Rouge, pas seulement la libération de l'esclavage sur la terre, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'esclavage, mais une libération totale où Satan ne règne plus, bien plus grande que celle du passage en mer Rouge. C'est le passage de la mort à la vie. Et dans le royaume de Christ, il n'y aura plus le mal, ni Satan, ni ses serviteurs, ni les fausses puissances mensongères. Donc les anges ont une force et un rôle extrêmement important. Maintenant, nous pourrions voir un texte dont j'ai fait référence tout à l'heure, qui s'appelle dans Job, si vous voulez bien. C'est quand même intéressant de faire référence à ce texte, qui donne un encouragement déjà il y a 42 siècles, 21 siècles avant Jésus. Job, chapitre 33. Au verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, afin de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, c'est-à-dire de l'enfer, tout ça. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort, donc des anges de Satan, des anges de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, donc c'est pas seulement un simple ange, c'est le Christ, à la tête des anges, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à cet ange, à ce messager, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, c'est-à-dire sans colère, favorable, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, la sainteté de Dieu. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, donc dans l'enfer. » Ma vie s'épanouit à la lumière, donc en Dieu, en Christ. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Or, nous savons, Jean 8, 35, que Christ, je suis la lumière du monde. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, je parlerai. Nous voyons que ce texte, qui est très ancien, a beaucoup frappé d'hommes et de femmes, depuis des tas de siècles, si bien que, même dans la Bhagavad-gita, dans le livre des morts des moines tibétains, ce passage s'y trouve. Naturellement, les bouddhistes, les Européens qui deviennent bouddhistes, ne s'intéressent pas à ça parce qu'ils ne veulent pas chercher Jésus-Christ. Ils ont tellement horreur d'entendre parler de l'Église de Jésus-Christ, ils n'y comprennent rien d'ailleurs, qu'ils cherchent une autre forme rituelle, religieuse d'existence. Mais, au fond des choses, celui qui a écrit le livre des morts des moines tibétains avait lu le livre de Job, puisque le bouddhisme a commencé 6 à 7 siècles avant Jésus. Le livre de Job, 21 siècles avant Jésus. La parole de Dieu est puissante, vous voyez. Elle rejoint toujours les hommes, là où ils ne s'y attendent pas. Donc, nous voyons bien qu'il y a un ange parmi des milliers d'autres qui vient et qui a payé la rançon et s'est déjà manifesté dans Job au chapitre 33. Bon, maintenant, allons plus loin, voyons quels sont les autres anges. Ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas avec les élus, les anges qui se sont révoltés, qui ont suivi Satan. Si vous voulez savoir où se trouve ce Satan, c'est Ésaïe chapitre 14 et c'est Ézéchiel chapitre 28. Mais je ne vais pas me faire trop de réclames sur Satan, je vais simplement parler de ses acolytes, ces nombreux messagers mauvais, auxquels s'intéressent beaucoup de gens sur la terre, trop, par l'occultisme, le dialogue avec les morts, etc. L'astrologie, l'horoscope, la radiesthésie, la divination, l'hypnose, etc. Les anges, les passeurs d'âmes aussi, comme on dit ça ici, et les anges érotiques. Oui. Il y a aussi les anges érotiques qui procurent des jouissances nocturnes à beaucoup de personnes en folie. Alors, voyons ces anges qui ont été rejetés par Jésus et par Dieu, pour toujours, pour lesquels il ne faut pas prier. Ils sont condamnés à l'étang de feu de soufre avec leur chef, avec Satan, et tous ceux qui ont aimé leurs œuvres. Matthieu 25, 41. « Je dois vous dire que je suis déjà tombé dans mon travail de pasteur et d'évangéliste sur des gens qui voulaient absolument que je prie pour les démons, pour qu'ils soient sauvés, pour Satan. Mais je dis, il n'y a rien. C'est interdit. Nous ne pouvons pas prier pour les anges déchus, ni pour Satan. Et ces personnes ont tourné les talons. C'était clair. Ces personnes étaient amies de Satan. Ils voulaient me corrompre. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Donc, on voit que les anges et les humains qui ont réellement méprisé leur prochain, alors qu'ils étaient en difficulté et qu'ils ne les ont pas aidés, les anges mauvais qui habitaient le cœur de ces gens, de ces hommes et de ces femmes mauvais, ces anges et ces personnes vont en enfer. Verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a donc des anges déchus qui iront en enfer. Romains 8, 38. Je ne vais pas épuiser tous les textes sur les anges déchus et les démons, et sur le jugement des démons. Il y en a aussi dans l'Apocalypse. Je ne peux pas, c'est pas mon but. Je ne tiens pas à m'attarder sur ce genre de personnages. Ils font déjà assez de mal sur la terre. C'est à Jésus-Christ qu'il faut s'intéresser et à son évangile. Mais tout de même, c'est un avertissement. Lorsque je prends ces textes, c'est pour donner un avertissement, pour ne pas être dupe. Romains 8, 38. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Jésus-Christ est bien plus puissant que toutes les profondeurs de Satan, que tous les anges, toutes les dominations présentes et à venir, les œuvres des démons sur cette terre. L'amour de Christ nous préserve de Satan. L'amour de Christ envers nous et l'amour de nous envers Christ dans la plus sainte communion et l'obéissance à sa volonté. Nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Christ si nous marchons en Christ par sa parole et le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15, 38. Première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Paul, dans son ministère, a été confronté à l'œuvre de Satan, souvent. Il a toujours, toujours été fidèle à Christ. Et Christ est venu toujours à son secours. Et à Éphèse, c'est clair. Éphèse, c'était la ville où Diane, Artémis en grec, avait des simulacres. Elle semblait être une grande vierge tombée du ciel qui apparaissait et qui se révélait. Et cette grande vierge, eh bien, il y avait des statues d'Artémis, de Diane, des milliers de statues, un culte, un commerce. Et Paul a prêché, et beaucoup de gens ont livré leurs statues, leurs livres concernant Artémis, Diane, pour une valeur de 100 000 journées de travail, et on a tout brûlé sur la place d'Éphèse. Mais ce qui s'est passé, c'est que plein de gens, des producteurs de statues, de livres, etc., de souvenirs, se sont mobilisés pour maltraiter à mort l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu 3-4 ans dans la ville d'Éphèse, courageusement pour soutenir les chrétiens qui étaient là, en proie aux attaques de Satan. Et il a eu les yeux purulents, il avait comme des formes de crise d'épilepsie. Il était attaqué par Satan, mais il a résisté. Il a été un témoignage vivant de la foi qui résiste. Et c'est pour ça qu'il écrit ce verset, 1 Corinthiens 15:32, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, les bêtes, en grec c'est démonion, les démons à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Ça veut dire que Paul dit simplement, non, je n'ai pas combattu par la chair les démons à Éphèse, je les ai combattus par la puissance de la parole et par le Saint-Esprit, dans la foi. Et il dit, bien sûr, si je vivais par la chair, si je vivais comme tout le monde, de manière incrédule, même peut-être avec une étiquette de chrétien, mais sans puissance, sans vérité, eh bien, je suivrai la consigne générale, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et voilà la société de consommation, le consumérisme que l'on trouve en Occident, qu'on a trouvé à Éphèse à l'époque de Paul. C'est une ville où tout le monde vivait bien, comme à Athènes, comme à Rome. Enfin, pour la plupart, parce que les esclaves y souffraient. Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'est la parole des incroyants, des incrédules, et des gens qui sont mobilisés par Satan contre la foi chrétienne, contre la foi en Christ. Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse, contre les démons à Éphèse, par le jeûne et la prière, par la foi, par la prédication de la parole. Chers amis, aujourd'hui, il y a des chrétiens dans beaucoup de pays qui en sont là. Ils ont ce combat. Et ici en Occident, réellement, quelqu'un qui veut servir Jésus-Christ a le même combat. C'est un combat très dur, très difficile. Il n'est pas risqué, puisque nous avons Christ, mais il n'est pas sans inconvénients. Il n'est pas toujours tranquille. Satan sait très bien s'y prendre pour faire souffrir. Alors, je voudrais vous parler encore de ce que Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 3. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, donc humainement, et il parle à des chrétiens, et je vous parle aussi. Si nous marchons dans l'humain, nous ne combattons pas selon l'humain, selon la chair, les moyens charnels. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas humaines. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, la puissance de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements à toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà donc la dimension réellement de l'évangélisation. Paul le dit bien clairement, les armes qu'il possède ne sont pas de lui. La puissance qu'il a n'est pas de lui. L'intelligence avec laquelle il parle ne vient pas de lui. La sainteté qu'il arrive à suivre et être fidèle ne vient pas de lui. Tout est grâce. Tout est grâce. Et tout est puissant par la vertu de Dieu. Comment a fait Paul ? Comment devons-nous faire ? Mais mes amis, il faut se mettre à genoux. Comme un vieux chrétien m'a dit il y a très très longtemps, au début que je rentrais dans le milieu évangélique, je venais du monde catholique, « Jean, tu n'avanceras bien qu'à genoux. » Mes amis, Nous avons et trop l'amour du confort ici en Europe et de nos caprices. C'est un grand risque pour nos âmes et c'est une source de bien de beaucoup d'échecs devant les forteresses qui sont en face de nous. Avez-vous déjà vu des forteresses? En général, il y a un grand rocher, un éperon rocheux, et puis là au-dessus, il y a des murs puissants, il y a des tours, des donjons, et de là, on vous observe. De là, si vous approchez, on tire sur vous, on vous bombarde. Les forteresses, c'est une belle image de ce que peut faire Satan à l'égard des chrétiens. Et pourtant, chers amis, Paul dit au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses peuvent être prises par la puissance de Christ. La hauteur des forteresses ne compte pas devant la puissance de Christ. C'est pour ça que Matthieu 28, 18, 20, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Êtes-vous dans le vrai christianisme? Êtes-vous dans la vraie foi telle que Jésus vous demande de la vivre? Au début de mon engagement dans le milieu évangélique, j'étais très généreux, je suis toujours, mais ce qu'il y a, nous faisions une façade autour d'une église évangélique à 25 km, gratuitement, avec plein de réfugiés qui habitaient chez nous, à la maison ici. Nous allions faire cette façade. Et je leur apprenais comment il fallait faire. J'étais à peu près le seul qui savait maîtriser ça. Et donc, ça marchait bien. Ils étaient tous gentils, tous intelligents, et ils étaient chrétiens, tous ces réfugiés. Et un jour, nous n'avons pas été vraiment bien accueillis. On a rendu service, on n'a pas vraiment été bien accueillis, je vous le dis, par cette église. C'était sur le bout des doigts. Mais ce qu'il y a, un chrétien est venu tout près de nous et s'est adressé à moi. Jean, sais-tu ce que c'est que de marcher par la foi? Je lui réponds, non, j'ai la foi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire marcher par la foi. Attends, Jean, d'ici peu, tu vas le connaître. Tu vas découvrir ce que ça veut dire marcher par la foi. Cet homme avait été poussé par Dieu, il est mort maintenant, à me dire ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez aussi et que vous ouvriez votre cœur et votre esprit à cette parole qui est nécessaire dans la vraie vie chrétienne. Alors, des puissances et des forteresses tomberont. Pas au moment où vous voulez, mais elles tomberont. Par les vertus de Dieu, de Christ. Alors vous verrez la gloire de Dieu. Alors, comprenez ce verset, vous recevez peu parce que vous demandez peu. Voilà ce que c'est que la foi des incrédules ou la foi de celui qui a vraiment confiance. Il n'a pas peur de demander. Jésus a dit, va qu'il se fait selon ta foi. Et devant Satan, devant les démons, va qu'il soit fait selon ta foi. Parce que ce ne sont pas des rigolos. Et ils sont très agissants actuellement. Prenons la deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 5. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Donc, par de la communion avec Jésus. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Tiens, tiens. Comme l'église de Laodicée, comme l'église de Sardes, etc. Dans l'Apocalypse. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ces apôtres en désignant d'autres qui ont séduit les chrétiens. Qui sont ceux-là qui ont séduit les chrétiens? Si facilement, peut-être. Comme parfois aujourd'hui encore. Eh bien, verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voici ce que Jésus a dit, chers amis. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Regardez bien ce que Jésus a dit. Chers amis, êtes-vous capables de dire cela, comme Jésus, votre maître, de le suivre en cela? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas très clair? Verset 43. Voici un cadeau, un ange. Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier, chers amis. Il y aura toujours un secours divin pour celui qui s'est engagé réellement au service de son maître, de son Seigneur. Il y aura toujours un secours divin. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Dieu soit loué, à bientôt. Nous sommes lundi. Je pense que le 27, c'est mercredi. Est-ce que je serai rentré pour 18h? Je n'en sais rien. Je l'espère. Quelqu'un a fait une culture biologique, hein, tout près de Chalon, à Veuve, et nous allons chercher 3 tonnes de blé. Il se peut que je sois rentré pour l'heure. Il se peut. Je l'espère, de tout mon cœur. Mes messages sont déjà prêts. Mais si je n'étais pas là, attendez-vous à ce que je sois là vendredi. Que Dieu vous bénisse. Il peut arriver qu'il y ait des imprévus. Comme on dit, un cheveu dans la soupe. Ou comme me disait un chef d'équipe, un maçon français, un jour, la loi de la vexation universelle. C'est toujours l'imprévu, quoi, qu'on ne veut pas. Mes chers amis, rien ne peut empêcher la parole de Dieu de grandir dans vos cœurs. Réfléchissez à tous ces versets que je vous ai donnés de bon cœur. Alléluia.